Bonsoir, vous êtes bien à l'émission Occupons les ondes sur CKIA 88,3 FM.
Il y a eu le printemps arabe, les indignés de Madrid, le mouvement Occupy Wall Street, et puis plus de 1000 mouvements occupant notre ville répartis dans 87 pays différents. Et en ce moment, vous écoutez la toute nouvelle émission Occupons les ondes, une émission où, nous l'espérons, tous les citoyens indignés de Québec vont pouvoir trouver des nouvelles voies vers un monde plus sain, un monde plus juste.
Bonsoir, chers auditeurs, chers auditeurs. Vous êtes sur les ondes de CKIA 88,3 FM en compagnie de vos co-animateurs, Julien Lapierre, moi-même, et de Luc Roland-Brunard. Donc, content, Luc, on se lance enfin dans cette première émission d'Occupons les ondes.
Oui, très heureux, Julien.
Dis-moi, Luc, ce serait intéressant de présenter aux auditeurs comment est née, en fait, l'idée de partir cette émission de radio Occupons les ondes sur CKIA et un peu le pourquoi du projet, en fait. Là.
Oui, ben je pense que nos auditeurs, pour la plupart, auront eu connaissance du mouvement et des péripéties autour du campement à Saint-Roch qui a été finalement interdit et démantelé alors que la ville d'abord suggérait qu'elle était plutôt favorable. Alors, il a fallu chercher d'autres moyens de diffuser les enjeux qui nous semblent urgents, qui nous semblent importants. Et puis, les réflexions aussi, parce que le mouvement Occupons la planète diffuse beaucoup de réflexions. On souhaite le faire nous-mêmes et y contribuer, idéalement, bien sûr.
Mmh. Une chose, moi, en tout cas, que je retiens de mon expérience au campement des indignés sur Saint-Roch, qui a été pour moi une expérience vraiment enrichissante, c'est vraiment le fait que c'était un lieu de rencontre, de rassemblement et de partage d'idées, hein?
Oui, exactement. Moi aussi, Julien, ça m'a beaucoup épaté de voir que enfin, pour une fois, les gens se rassemblaient. Parce que moi, toute ma vie, j'ai entendu beaucoup les gens dire « le monde ne tourne pas rond, ça va pas bien, il faudrait que ça change ». On disait ça chacun, moi inclus d'ailleurs, dans notre coin, dans notre salon, dans un bar, au bureau. On le disait et puis on pensait à autre chose et puis évidemment, ben, rien ne changeait.
Rien se faisait.
Donc, le mouvement Occupons Québec, dans mon esprit, réunit ces voix-là, enfin, et puis va plus loin, bien sûr, parce que seulement gagner, c'est pas très constructif. Donc, songe à des actions concrètes pour sauver notre monde, parce que effectivement, on peut considérer qu'il est dans un piètre état quand même. Et puis, surtout, ça c'est pour moi le plus important, réaliser ces actions pendant qu'il en est encore temps, c'est-à-dire le plus tôt possible.
Donc, des actions concrètes.
Tout à fait. Alors, nous, à l'émission, on va essayer d'identifier justement des façons pour que toi, Julien, moi, vous, chers auditeurs, chers auditrices, pour que chacun, nous trouvions des façons de transformer notre monde. Ça peut sembler idéaliste, mais je crois que c'est tout à fait réaliste. Au contraire, les plus petites actions comme les plus importantes sont nécessaires.
Et légitimes.
Absolument. Vous savez, il y a une image vraiment importante, un symbole très fort que ce mouvement véhicule depuis le tout début, c'est que le 1% de l'humanité contrôle 99%. Alors ça, évidemment, il faut en prendre conscience que mathématiquement, philosophiquement, si c'est le cas, c'est parce que les 99% laissent faire.
Hein? Effectivement, puis dans ce symbole-là, on peut penser aussi que c'est un symbole qui a vraiment chez qui les gens se sont vraiment reconnus à travers la planète. Des gens se sont identifiés finalement à ce symbole qui est très fort. Hein. On a vu finalement tous les camps des indignés afficher ce symbole-là finalement.
Exactement. Alors, nous, on veut que ça change, et puis les enjeux, vous allez voir, parce que le symbole vient beaucoup du monde de la finance, bien sûr, mais les enjeux sont très, très vastes et très variés. Ça touche l'environnement, bien sûr, la politique, ça va de soi, et puis les inégalités sociales, celles dans notre société, Julien, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, mais aussi celles entre les pays riches, nous, et les pays du tiers-monde qui sont astronomiques, les inégalités en question.
Vraiment.
Donc, ce soir, plus concrètement, ça c'est un peu le concept en général. Julien, est-ce que tu peux nous annoncer un peu ce qu'on va faire?
Oui, en fait, pour cette première émission d'Occupons les ondes, on va se concentrer essentiellement sur la provenance ainsi que sur les fondements de ces mouvements d'occupation qui, depuis quelques mois, hein, se sont manifestés principalement dans les grandes villes, on le sait, d'Europe et d'Amérique du Nord. En première partie, on aura l'occasion de recevoir Benjamin Clich, qui nous abordera sur les principales revendications et dénonciations des mouvements occupants. Par la suite, nous aurons notre invité, puisque à chaque émission, on aura l'occasion, le plaisir de recevoir une invitée spéciale. Donc, Pascal-Marie Milan, qui nous présentera ce personnage haut en couleur, qui est Stéphane Hessel, cet auteur de deux volumes clés là, qui sont à découvrir. Donc, s'en suivra une table ronde et nous irons par la suite présenter un agenda de ce qu'il y aura à faire dans les prochains jours, prochaines semaines à Québec et à Montréal. Sans oublier Simon Michaud qui nous présentera également une chronique sur le mouvement des indignés aux États-Unis avec Occupy New York, et etc. Donc voilà, j'aurai le plaisir de vous suivre avec Luc tout au long de cette émission.
Ça promet, et on écoute Pauline Julien.
Dans des chambres d'hôtel, même quand on fait des procès en l'absence de l'accusé, même quand on coule dans le ciment des gars de la construction. Oula paix, oula paix, oula paix, oula paix, oula paix. Moi je vais pour la paix, pour la paix, disait-il. Même quand les colombes portent des fusils en bandoulière. Oula paix, oula paix, oula paix, oula paix, oula paix. Moi je suis pour la paix, oula paix, disait-il. On l'appelait monsieur pour la paix.
Même quand on se fait dire circuler, circuler le soir après 9h. Chômeurs au lieu de leur donner des jobs. Même quand les défenseurs des droits de l'homme sont assis sur les genoux de la police. Même quand des ouvriers meurent empoisonnés dans des raffineries de cuivre. Familles entières pour construire des autoroutes. Même quand l'augmentation des salaires rejoint jamais l'inflation. Même quand la police tire dans le dos des jeunes en les traitant de maudits drogués.
Rebonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Toujours à l'émission Occupons les ondes, à l'antenne de CKIA 88,3 FM. Donc, maintenant, nous recevrons Benjamin Clich, qui sera un de nos collaborateurs, entre autres, tout au long de l'émission cette année. Alors, bonsoir, Benjamin.
Bonsoir.
Voilà, tu es venu nous parler, en fait, nous entretenir sur ce que sont, en fait, les revendications, les principales revendications et dénonciations de ces mouvements d'occupation. Donc, voilà, tu peux te lancer?
Effectivement. Alors, c'est un mouvement qui est très vaste. De ce qu'il faut comprendre, ce que j'ai compris, c'est que les revendications et dénonciations sont quand même assez multiples. Donc, puisque les problèmes du monde sont multiples, les dénonciations sont multiples.
Effectivement.
Alors, le mouvement Occupy, le mouvement Occupons en français, c'est plusieurs centaines de villes à travers le monde. Donc, il y a une réalité locale différente pour chacune des villes, une réalité socio-économique, une réalité géopolitique différente.
Mm-hmm.
Puis, donc, par exemple, si on prend le cas de l'Espagne, où le taux de chômage des moins de 25 ans est astronomique, ouais, donc on parle de 43%, la réalité est différente entre l'Espagne et Québec, où le taux de chômage est autour de 5% pour la ville de Québec. Mais il y a quand même de ces réalités locales différentes-là des dénonciations, des revendications qui sont partagées.
Qui sont communes, en fait.
Oui, qui sont communes entre les divers mouvements. Donc, moi, la première dénonciation que je comprends, c'est derrière le slogan « We are the 99%, nous sommes les 99% » qui a été mentionné par Luc tout à l'heure, c'est vraiment une dénonciation de l'inégalité des richesses à travers le monde. Donc là, on parle d'une inégalité qui est multiscalaire, donc qui se retrouve à toutes les échelles, qu'on parle de l'échelle internationale, l'échelle nationale, l'échelle provinciale, l'échelle municipale. Donc, simplement au point de vue international, on peut mentionner peut-être une étude de l'ONU qui nous dit que 2% de la population mondiale possède 50% des richesses. C'est la même chose, par exemple, aux États-Unis, on nous dit que 1% des ménages possèdent 40% de la richesse. Ça, c'est Stiglitz, le prix Nobel d'économie, qui va mentionner ça. Au Brésil aussi, on sait qu'il y a des inégalités très, très fortes. Au Canada, c'est la même chose. Une étude de l'IRIS nous mentionne que 61 personnes... les plus riches possèdent deux fois plus que les 17 millions de personnes les plus pauvres. Là, donc,
et les choses ne semblent pas vouloir s'améliorer avec un gouvernement comme le gouvernement Attard, là, pour dire Éric Charest ici.
Non, mais c'est ça. Donc, effectivement, il y a des études qui nous montrent que les inégalités s'accroissent en fonction du temps, donc qui est notamment vu par les indices de Gini. Donc, une mesure statistique pour... Et d'ailleurs, il y a eu un rapport de l'OCDE qui a été publié dernièrement qui s'intitule « Toujours plus d'inégalités ». Donc, un titre assez révélateur.
Assez révélateur, merci.
Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est notre première dénonciation qui est toujours accompagnée d'une revendication qui serait simplement « Diminuons les inégalités par un impôt progressif plus structuré, une augmentation du taux d'imposition des plus riches pour une meilleure redistribution des richesses ».
Des richesses, oui, voilà.
Donc, ça fait déjà 4 minutes que je parle. Hein. C'est bien ça?
Ça
passe assez vite.
Ça va bien.
Donc, une deuxième dénonciation, finalement, ce serait pas nécessairement de dénoncer la richesse de 1% des plus riches, mais surtout leur comportement.
Leur comportement,
donc,
voilà.
Ça a été présent dans la plupart des mouvements Occupy. Dans le fond, c'est de dénoncer le comportement des élites financières et politiques qui sont les acteurs et les responsables, finalement, du système économique dans lequel on est, du système financier. Qui crée des crises environnementales, des crises financières, des crises sociales. Donc, vraiment, c'est de dénoncer ce comportement-là, et le mot cupidité est revenu souvent. Donc, et là, ça peut être très délicat parce que là, le 1% devient symbolique. Donc, on rentre un peu dans une lutte des classes. Et c'est pas...
Mais en même temps, ça a été une des forces aussi de justement ce symbole-là, 99% versus le 1%. C'est de cibler qu'une cible. Hein? Et c'est pourquoi tout le monde à travers la planète se sont rejoints à ce symbole-là, parce que ça existe aussi, ces élites-là financières, l'establishment, qui finalement plongent les pays dans des crises incroyables.
Exactement. Puis, finalement, là, on en arrive peut-être, puisque tout est lié, simplement à la démocratie. Donc, vraiment, un élément central du mouvement Occupy, c'est un appel à la démocratie directe et participative. Donc, d'ailleurs... En Espagne, c'est parti sous le nom de « Une vraie démocratie maintenant ». Donc, en réalité, c'est comme une dénonciation de ce qu'on pourrait appeler l'oligarchie des corporations. Donc, c'est que les gens ont vraiment l'impression que les corporations ou le système financier ont beaucoup trop de pouvoir, en fait, sur les élites politiques. Donc, vraiment, puis SL va appeler ça l'actuelle dictature internationale des marchés financiers.
Voilà. Et il y a des exemples à travers le monde de minières, de multinationales, de corporations qui font finalement la loi dans des pays où qui se permettent tellement de choses à contourner la loi, à déloger des populations, tout ça. C'est donc dire que nos démocraties, autant en Occident, sont malades, sont en prise en otage un peu par tout ce système-là qui s'appelle en fait un capitalisme en déroute, littéralement.
C'était pas de dénoncer le capitalisme en tant que tel, mais bien les abus du capitalisme.
Les abus,
Et la nuance est là. Donc, donc vraiment, c'était de faire un appel à la démocratie. Donc, dans les mouvements Occupy, au centre des villes, c'était simplement de revendiquer le droit de se rassembler librement dans un espace public pour participer à des débats, pour s'exprimer. pour trouver des solutions, pour participer à des conférences, puis sous une structure horizontale. Donc, c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant, puis qu'on va pouvoir approfondir.
Approfondir dans de prochaines chroniques et tout au long des émissions. Merci, Benjamin. Franchement, c'est super intéressant comme introduction. Et vous rappelez que voilà, hein, c'est à partir du printemps 2011, les mouvements arabes, tout ça, c'est vraiment une lancée. Et on espère qu'en 2012, ça continuera à militer fort. Maintenant, on passe à une chanson, La petite vie, petite misère, de Vilain Pingouin.
Alors, à l'époque du campement, j'ai entendu souvent dans les autres médias de masse la question « Mais qui sont ces gens qui s'y trouvent ?» Il n'y avait pas de réponse, hein. Il y avait des gens de tous âges, de toutes origines, de tous les genres, de tous les styles. Et j'ai le plaisir ce soir de vous en présenter une de celles qui étaient là, Pascale-Marie Milan. Bonsoir, Pascale-Marie.
Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je suis très contente d'être dans cette émission, d'occuper enfin les ondes.
Alors, vous l'avez peut-être remarqué, à son accent, elle est de nationalité française. Elle est au Québec pour ses études. Et elle vient nous parler ce soir de Stéphane Hessel, un personnage tout à fait impressionnant. Un monsieur de 95 ans, si je ne m'abuse, qui a inspiré le mouvement des indignés. Comment ça s'est passé, tout ça?
En fait, Stéphane Hessel est un ancien résistant français. Il a rejoint le général de Gaulle en 1941 et c'est notamment un des participants à l'écriture des droits de l'homme. C'est aussi un ancien diplomate français. Alors,
On parle de la Charte universelle des droits de l'homme en 48.
Oui, c'est ça.
Il en est un des rédacteurs, donc.
Exactement. Voilà. Donc, en fait, Stéphane Hessel, avec son livre Indignez-vous, a marqué concrètement l'année 2010, après une sortie de crise difficile et une période de remise en cause des pouvoirs, notamment en Europe. Et c'est un ouvrage, en fait, qui est venu à point nommé, catalyser une immense vague de contestation qui a traversé le pays, les pays et dépassé les frontières. En fait, il dit tout simplement qu'il ne suffit pas de s'indigner, même si son premier livre c'était donc Indignez-vous, il est allé plus loin, il est allé dans un livre qui s'est appelé Engagez-vous, où là en fait il disait que chacun avec sa sensibilité propre doit savoir s'engager sur tous les fronts dans les combats de son époque, droits de l'homme, défense des sans-papiers, des sans-logis, lutte contre les inégalités, écologie. Et en fait c'est un éternel optimiste, il croit à la nature riche des ruses multiples qu'on peut mettre en place et invite les jeunes générations à s'indigner, à résister contre les choses scandaleuses qui les entourent.
Oui, et je pense qu'il il nous explique que lui-même est très conscient, parce que ce monsieur, si on fait le calcul, étant donné l'âge que je lui ai donné tout à l'heure, est né dans les années 20, il a donc connu la Deuxième Guerre mondiale, et je crois qu'il nous soumet que les causes d'indignation étaient très claires, précises et nettes pour tous à l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus flou. Alors, comment il nous suggère d'aborder les choses?
En fait, Stéphane Hessel, concrètement, dans son livre « Indignez-vous », nous dit que les raisons de s'indigner aujourd'hui peuvent paraître moins nettes ou plus ou moins complexes, en fait. C'est difficile, en fait, pour lui de savoir qui commande, qui décide, et il n'est pas toujours facile de distinguer entre tous les courants qui nous gouvernent. Et nous n'avons plus affaire à une petite élite dont nous comprenons clairement les agissements selon lui.
Donc c'est beaucoup plus diffus, mais
exactement.
Pas moins important aujourd'hui, peut-être encore plus important aujourd'hui. Enfin, on mettra pas d'échelle là comme ça, mais c'est très important donc encore de garder ce sentiment d'indignation et, comme tu disais tout à l'heure, de le dépasser.
C'est ça. Mais il dit concrètement, en fait, que chacun peut trouver les motifs d'indignation dans sa vie de tous les jours qui l'entoure. Et donc, je pense que du coup, tout citoyen est à même de les trouver dans sa vie, ne serait-ce qu'en croisant dans la rue quelqu'un qui n'a pas les moyens de manger et qui va quémander une pièce pour pouvoir le faire. Si tout le monde n'est pas prêt à donner une pièce, je suggère à tout le monde de donner à manger.
Oui, excellente suggestion. Et donc, s'engager, hein, c'est l'étape suivante. Ça peut prendre une forme que tu viens de mentionner, ça peut prendre d'autres formes.
S'engager, à un moment donné, on peut s'engager, en fait, dans la vie de tous les jours, en ne serait-ce que parlant des motifs de l'indignation, en allant chercher tous ces autres indignés. Je pense que c'est la première forme d'agir qui peut concrètement aider l'humanité, en fait, à résoudre ses problèmes actuels, parce que ce sont bien des problèmes qui sont liés à l'ensemble de la Terre.
On l'espère beaucoup, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Et puis il a écrit, je crois, avec M. Morin, Edgar Morin, un sociologue français bien connu, un autre livre. Comment ça s'intitule?
Oui, alors cet autre livre en fait s'appelle « Les chemins de l'espérance aux actes citoyens ». Et là concrètement, il prône l'agir en bonne et due forme. Il dit qu'on a, on a de l'espoir encore aujourd'hui, qu'on peut aller plus loin, qu'on peut s'engager vraiment concrètement dans la vie de tous les jours. Il cite par exemple Attaque, qui est un organisme qui aujourd'hui lutte concrètement pour taxer les transactions financières. C'est un motif d'engagement comme un autre, mais avec les multiples associations communautaires qu'on peut avoir dans Québec, je crois qu'on a vraiment possibilité de s'engager.
Ça tombe bien parce que nos chers auditeurs, vous allez avoir l'occasion la semaine prochaine d'entendre parler de plus particulièrement de ce mouvement Attaque avec notre invité qui va te succéder. Bien, donc, si on se résume, ce monsieur Hessel a quand même été à l'origine d'un mouvement incroyablement vaste et qui continue. Merci beaucoup de nous en avoir parlé.
Merci à vous d'occuper les ondes.
Avec grand plaisir. Donc, nous passons à une musique, j'essaie de l'identifier.
Maudit que le monde est beau.
Maudit que le monde est beau des colocs.
Le monde est beau, dans les annonces de Roberto, Colin, le monde est beau, car
quand il va chercher son Oscar. Mon petit Clamande est beau dans un dégât potable de char. Et bien rien de sa troublette appelle la bicyclette tous les samedis. Jeans le vide et faux trous, mon petit Clamande est beau. Pochette café, bio, tisane bio. Caroline Clamande est beau. Après une campagne électorale, et Clamande est donc beau. À l'hôtel de ville de Montréal, les pierres se trouvent à fin de bicyclette.
Alors, toutes mes excuses à Vilain Pingouin. Non, au coloc, décidément. Double excuse au coloc pour ma présentation de tout à l'heure. Alors, de retour avec mon invité Pascal Marie Milan et se joignent à nous Julien Lapierre, que vous avez entendu tout à l'heure, et Benjamin Clich, que vous avez aussi écouté. Nous allons essayer de faire le lien plus concret entre cette... cette mouvance du mouvement Occupons la planète qu'a inspiré donc M. Essel dont on vient de parler et notre expérience dans le mouvement Occupons Québec, notre expérience personnelle, quels sont les motifs qui nous ont vraiment indignés et qui nous ont motivés à participer à ce mouvement. Alors, Pascal Marie, toi, qu'est-ce qui t'a amené à venir camper?
Et au début, c'est simplement la lecture de Stéphane Essel qui a inspiré en moi cette envie de changement, de voir d'autres choses se passer dans la société, des choses beaucoup plus humaines. Et puis finalement, quand c'était dans le campement, c'était une envie de défaire, de déconstruire tout ce discours qui entoure notre société aujourd'hui, qui est bien trop économique, qui rend les relations sociales trop économiques. Et on l'a retrouvé notamment dans certaines émissions de radio qui allaient à l'encontre du mouvement, qui disaient des inepties à nos propos, qui racontaient des bobards concrètement à tout le monde. Et d'ailleurs cette émission est une bonne réponse à ces émissions de radio.
Oui, mais on connaît les émissions de radio poubelle à Québec, on la cote, mais malgré ça il y a beaucoup de gens qui je pense ont trouvé que c'était des propos vraiment mal placés à notre égard. Moi en tout cas, pour parler un peu de mon expérience et ce qui m'a amené aussi à me joindre à cet événement-là, à ce mouvement-là finalement qui est né à Occupons Québec, c'est vraiment dans ma vie personnelle, hein, j'ai eu tout au cours de ma vie des expériences qui m'ont amené à finalement avoir des motifs d'indignation personnelle et tout ça, mais toujours pas vraiment dans... J'ai jamais eu comme le sentiment de pouvoir me retrouvais à travers soit des partis politiques. Tu sais, c'est comme si nulle part je retrouvais des parts d'attache. Sinon que avec ces mouvements-là, j'ai tout de suite été interpellé personnellement dans quelque chose qui venait vraiment, vraiment me chercher, là, puis de voir un mouvement populaire, hein, qui est pas qui est né finalement aussi. Puis ce qui est impressionnant, c'est que c'était partout sur la planète, hein, qu'on voyait ce mouvement-là lever des campements.
Benjamin, toi, est-ce que...
Mes motifs personnels, c'est évidemment, bon, je lis sur Le Monde, j'écoute les nouvelles à chaque jour depuis longtemps, puis je vois très bien qu'il y a des choses qui tournent pas rond, il y a des choses qui clochent, on parle de crise financière, on parle de crise environnementale, on parle de crise sociale partout sur la planète, puis voilà, donc quand j'ai vu les tentes arriver, au début je me demandais qu'est-ce qui se passait au campement,
au
Carré Saint-Roch, qui d'ailleurs a plusieurs noms,
ouais. Hein, donc
les endroits, les spatiaux, spatiales qui ont des plusieurs noms, ont une valeur symbolique plus grande, donc on parle de l'île aux Fleuries, Place d'Université du Québec, là, c'est le campement des Indignés.
Ou la place des 6 chutes pour le monde dans la rue, c'est le même qui appelle ça en passe.
Le parc des 6, le parc des 6 millions.
Ouais, 6 millions, quelque chose de genre, parce qu'il a coûté 6 millions.
Donc, pour moi, ça a été vraiment une expérience humaine très enrichissante. On l'a mentionné tout à l'heure, c'était vraiment un lieu de rencontre, un lieu d'échange qui veut continuer. Puis, il y avait des conférences hebdomadaires tous les midis. Il y avait les assemblées générales. Tous les citoyens étaient appelés à venir s'exprimer, à venir participer à la démocratie directe et participative durant les assemblées, durant les prises décisionnelles. Puis, moi, c'est ça, mes motifs d'indignation sont multiples. Là. Je pourrais en nommer qu'un seul. Personnellement, quand j'entends les chiffres de la FAO, qui est l'organisme des Nations Unies, qui nous dit qu'un milliard de personnes sur la planète ne mangent pas à leur faim, alors on parle de 1 milliard de personnes sur 7 milliards, alors moi, je trouve ça absolument scandaleux et aberrant, d'autant plus que cet accroissement-là des gens qui ont faim est notamment dû à l'instabilité des prix des denrées alimentaires, des marchés financiers.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'il ne faut pas se dire simplement c'est loin, non. C'est ailleurs que ça se passe. Mmh. Parce que les relations de pouvoir aujourd'hui sont telles que le Québec forcément a des motifs en fait à avoir des ONG ou à avoir des relations un peu de domination avec ces États où les gens littéralement crèvent de faim. Mmh. Et d'ailleurs, on accueille samedi en fait c'est Monsieur Deneau pour son livre Noir Canada qui parle justement de toute cette comment dire cet impact que peut avoir le Canada dans ces pays
ailleurs dans le monde,
hein. Oui, c'est Monsieur Alain Deneau qui vient à l'agiter vers
je le présenterai tout à l'heure de toute façon en agenda pour les prochaines activités à la fin de l'émission, mais c'est pour vous dire aussi l'expérience de campement, comment ça a été riche en rencontres et tout ça, mais aussi juste l'exercice de démocratie participative, c'est pas quelque chose qui était nécessairement facile non plus, hein. Vous rappelez, je pense, parce qu'on était de ceux qui ont vécu vraiment beaucoup le campement à fond. Mm. Hein, jusqu'à même préparer le sommet des indignés et tout ça. Donc, c'est sûr que ça engage un autre type de rapport que de faire la démocratie participative.
Mais tu touches un point essentiel, et c'est d'ailleurs ce que Stéphane Hessel disait, c'est que c'est l'individu au service du collectif.
Voilà.
On s'insère, en fait, dans un collectif. On se réinsère dans la société dans cette société où actuellement, en fait, on est dans un individualisme hallucinant.
Et on parle aussi de comment les gens se sentent vraiment pas interpellés par la politique de plus en plus. Hein. Il y a du pessimisme qui entoure ça. C'est peut-être une idée aussi par la démocratie participative de se relancer dans ces débats-là.
Bien, Julien, Pascal-Marie, Benjamin, merci beaucoup d'avoir partagé vos motifs d'indignation. C'était très, très clair et très concret et très varié aussi, comme vous pouvez voir. Donc, nous allons maintenant vers une pause musicale.
Donc, toujours sur l'émission Occupons les zones, rebonsoir, chers auditrices, chers auditeurs. On vient d'entendre Break syndical des Cowboys Fringants. Donc, maintenant, je vous présente Simon Michaud qui aura le plaisir de nous présenter une chronique sur les indignés aux États-Unis. Donc, bonsoir, Simon.
Bonsoir, bonsoir.
Alors Simon, tu viens de parler justement des mouvements à Occupy Wall Street hein, qui se déroulaient là, disons, plus près de chez nous, qui est en partie un mouvement qui découlait en partie des indignés d'Espagne là, et du livre de Stéphane Hessel dont on a parlé tout à l'heure.
Effectivement, Julien, ce mouvement-là est par contre aussi inspiré par les soulèvements arabes qui se sont passés au printemps dernier. Et leur manière d'occuper l'espace public qui a été repris justement dans toutes les Occupy partout à travers le monde.
Partout à travers le monde. Donc, comment ça a commencé tout ça, plus précisément, disons, aux États-Unis, à New York, là?
Oui, c'est ça. À New York, ça a commencé l'été passé. Dans le fond, il y a un petit groupe qui a été inspiré par la montée révolutionnaire puis qui ont été de plus en plus dégoûtés par le système actuel, économique et politique, et donc qui ont décidé d'organiser une première assemblée générale. C'est à ce moment-là qu'a été décidé qu'il y aurait une occupation à Wall Street qui commencerait le 17 septembre. Mmh. Ensuite, il y a le magazine anticonsumériste Adbusters et le groupe de cyberactivistes Anonymous qui, entre autres, ont fait la publicité de ce mouvement-là. Ce qui fait que le 17 septembre, il y a eu plus de 1000 personnes qui se sont présentées, 2000 selon les organisateurs.
Hey, 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 hein? Donc, finalement, ça appelait aux gens à monter des tentes et quoi d'autre, en fait?
Ben, tu sais, c'est ça, c'est monter des tentes, on s'indigne, on reste là, mais c'est aussi, on monte une cuisine du peuple qui nourrira des milliers de personnes, entre autres. Je pense à l'Action de grâce où il y a eu un très gros souper. On monte aussi une bibliothèque du peuple. On offre à tous les citoyens une alternative au système en place, un endroit qui est ouvert, qui est démocratique. Parce qu'on le dit souvent, soit le changement que tu voudrais voir dans le monde, et bien voilà, eux autres, ils l'ont fait. Ils ont offert un endroit qui était ouvert, démocratique, inclusif, où tout le monde avait le droit à un abri, à quelque chose à manger, à des soins, parce qu'il y avait aussi une tente médicale et à plus encore.
Donc, c'est vraiment incroyable comme organisation quand même, tout ce qui s'est mis en place. Donc, ensuite, le mouvement est devenu comme quand même énorme, parce qu'on parle de tellement de villes qui, à partir d'une manifestation mondiale donc du 15 octobre, comme ici à Québec, qui a eu lieu d'ailleurs au Carré d'Youville. Donc, on parlait de près de 1000 villes dans plus de 80 pays là, dans le monde. Là, comment c'est devenu, disons, aussi gros? Hein?
Et d'après moi, il y a plusieurs éléments déclencheurs. Vous savez, parler du fameux slogan « Nous sommes le 99% » qui a vraiment touché les gens, qui a, de dire qu'il y a seulement 1% de la population qui a vraiment un impact sur le 99% des autres qui bénéficient vraiment de ce système-là. Et donc, les inégalités qui croissent, tout ça. Je pense que ça a pris de l'ampleur. Pas nécessairement à cause de l'organisation, parce que c'est quand même quelque chose qui s'est amplifié tout seul.
Il y a les réseaux sociaux aussi, j'imagine, qui ont permis là, d'une place à l'autre, hein, de voir, de se transmettre l'information aussi.
Absolument, il y a eu ça. Puis malheureusement, finalement, il y a aussi la brutalité policière qu'il y a eu à New York qui a influencé beaucoup et qui a amené des gens à se regarder le mouvement. Je peux rappeler qu'il y a eu 800 personnes qui ont été arrêtées, 700 ou 800 à Brooklyn, lors d'une marche pacifique d'environ 5000 personnes le 1er octobre. Mais, surprise, c'est 15000 personnes qui descendirent dans les rues les jours suivants. Donc, on peut penser à ça. On peut penser plus récemment aux étudiants d'une université de Californie qui ont été attaqués au poivre de Cayenne par un policier lors d'un sit-in pacifique dans le parc de l'université en plein jour. Donc, ça, c'est sûr.
C'est quand même des images aussi qui étaient vraiment incroyables. Hein? On peut aller voir toujours sur YouTube là, en cliquant là, un peu avec les mots-clés. Est-ce que tu seras en mesure comme de nous donner un peu des informations à savoir si les occupations, tout ça à travers le monde, où ça en est? Parce que les médias plus traditionnels ne couvrent plus grand-chose.
Effectivement, on peut dire que les occupations physiques ont cessé à plusieurs endroits, dont Québec, Montréal et New York, par exemple, mais qu'il y en a qui continuent encore partout à travers le monde. Et même les places où l'occupation physique a cessé, il y a encore des groupes Occupy qui sont très actifs et qui, dans le fond, c'est que le mouvement se transforme un peu, il devient autre chose, il se diversifie. Il y a de gros projets artistiques qui sont directement liés aux occupations qui sont en cours. Il y a aussi beaucoup de projets d'action directe et de projets d'information, comme notre émission de radio, par exemple.
Et ben, je sais qu'à Québec, c'est avec Occupons Québec aussi, on commence à essayer de donner des différentes orientations, ou du moins jusqu'au printemps prochain. Il y a aussi, je pense, un appel à relever les campements un peu partout, disons, plus vers le printemps.
Effectivement.
Ça... Là, ça prend la forme d'action plus directe et...
Oui, dans le fond, des actions directes, il y en a eu plein dans le mouvement. Je peux en nommer rapidement quelques-unes. Par exemple, à Oakland, en novembre dernier, il y a eu plusieurs milliers de manifestants qui ont fermé le port d'Oakland. L'action a été reprise sur toute la côte ouest américaine le 12 décembre. Donc, les ports ont été fermés à Oakland, à Portland, à Longview, à Washington et à Seattle. Il y a eu des ralentissements à San Diego, au Canada, à Vancouver. Il y a eu Long Beach aussi, et même à Hawaii, puis même au Japon. Sinon, il y a maintenant des occupations intérieures. On peut penser dans le district de Columbia, où il y a eu une école abandonnée, et il y en a plusieurs qui se font encore.
Merci, Simon. Puis c'est donc dire aussi qu'on peut se renseigner, bref, par les réseaux sociaux, et on verra aussi naître plusieurs actions directes de mobilisation aussi avec Occupons Québec et à travers les différentes occupations, telles qu'à Montréal, évidemment. Merci, Simon, pour la chronique. Tu auras l'occasion de revenir nous voir, je le sais. Maintenant, on va passer à une chanson de Boris Vian, « Le déserteur ».
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Donc, vous êtes toujours, bonsoir, chers auditeurs, sur l'émission Occupons les ondes sur CKIA 88,3 FM. Donc maintenant, je vous présente à l'agenda cette semaine, en fait, des activités de rassemblement, manifestations, etc., qui aura lieu sur les prochains jours ou les voire un ou deux événements là dans ce qui est le début du mois de février. Donc, pour vous dire, vendredi prochain, le 27 janvier de cette semaine, il y aura lancement de l'ouvrage « Faire l'économie de la haine » d'Alain Deneau, dont on parlait tout à l'heure, ce philosophe, auteur, conférencier engagé, qui a publié d'ailleurs « Noir Canada », un ouvrage assez controversé, qui d'ailleurs a été censuré, et qui dénonçait entre autres les minières, tout ça. Et sera suivi aussi un événement intéressant le samedi le 28 janvier, dès 13h30, à la Maison de la Coopération, à l'édifice de la CSN, au 155 boulevard Charest-Est, à la salle 1. Donc, Occupons Québec vous invite à cette conférence d'Alain Deneau. Toujours au sujet de des paradis fiscaux, mieux comprendre pour agir. J'ai oublié, je crois, de dire, pardon, qu'au lancement de l'ouvrage d'Alain Deneau, ça aura lieu à l'AJT, donc au 251 rue Dorchester, dans la basse ville de Québec, et la soirée débute dès 17h, ce qui promet donc d'être une soirée là, vraiment animée et franchement intéressante. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de l'AJT au www.agit.org. Donc, sera suivi, suite au lancement de l'ouvrage d'Alain Deneau, une conférence débat là, qui s'intitule « Entre liberté d'expression et censure ». Donc, par la suite, au 1er février, mercredi soir prochain, bon, sans oublier, mercredi soir prochain, toujours notre émission « Occupons les ondes » de 17h à 18h, bien sûr. Donc, à compter de 19h, il y aura une conférence bénéfice sur la dénonciation, en fait, entre les liens, en lien avec les compteurs intelligents d'Hydro-Québec, un dossier controversé qui sera animé par la Coalition québécoise de lutte contre la pollution électromagnétique à la salle Michel Jordan, du Centre Culture et Environnement Frédéric Bach au 870 rue Salaberry, à Québec. Maintenant, le 8 février, un 5 à 7 d'informations organisé par les Amis de la Terre concernant les différents enjeux environnementaux et comment pouvons-nous, hein, nous, citoyens, contribuer à améliorer le monde qui nous entoure. Donc, j'imagine qu'on parlera d'actions concrètes qu'on peut faire dans notre quotidien. Donc, ça aura lieu à partir de 17h30. Vous pouvez aussi, vous devez en fait confirmer votre participation au 418-524-2744. Je répète, le numéro 418-524-2744. C'est une soirée gratuite qui aura lieu donc au 170 rue Salaberry, au local des Amis de la Terre. Finalement, un autre événement que je tenais vraiment à souligner, c'est à Montréal, il y aura le 16 février, la Coalition nationale opposée à la tarification et à la privatisation des services publics qui bloquera l'accès au centre de commerce mondial, donc toujours à Montréal, où se situe entre autres le ministère des Finances et le Conseil du Trésor. Vous pouvez et vous devez, en fait, je pense, vous inscrire sur le REPAC, le site du REPAC est REPAC, à commercial, REPAC.org, ou téléphoner au 418-523-4158. Voilà, et il me reste un petit peu de temps pour vous dire aussi que le 4 février, un autre événement, somme toute, très important, moi qui me tient à cœur, et j'y serai, c'est à Montréal, le 4 février, une manifestation d'envergure organisée par le FRAPRU concernant les logements sociaux. C'est un événement de manifestation qui s'intitule « Charest-Bachan, ça prend 50 000 logements hein, », puisqu'on sait que les logements sociaux sont en difficulté. Donc, au centre-ville de Montréal, dès 13h, un départ de manifestation qui aura lieu devant les bureaux du premier ministre Charest, au coin des rues Sherbrooke et McGill. Ce qui est génial aussi pour nous, citoyens de Québec, c'est qu'on a l'occasion, avec le comité citoyen et citoyenne du quartier Saint-Sauveur, il nous offre un transport en autobus gratuit. Donc, ça devrait être assez intéressant de se retrouver entre indignés dans cet autobus pour se rendre à Montréal. Pour plus d'informations et réservations, contactez le comité citoyen et citoyenne du quartier Saint-Sauveur au 418-529-6158 ou taper sur l'internet là CCQ pour le comité citoyenne du Québec, du quartier Saint-Sauveur, pardon. Et même chose sur le site du Frappru, vous trouverez davantage d'informations. Donc on enchaîne rapidement avec une chanson de ce Vicious Cabaret. All right.
Broadway. They say that life's a game and then they take the board away. They give you masks and costumes and an outline of the story, then leave you all to improvise their vicious cabaret. In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties, there are warrants, forms and shitties, and a jackboot on the stair. Sex and death and human grind in monochrome, for one thing down, at least the trains are run on time, they don't go anywhere. Facing their responsibilities either on their backs or on their knees. There are ladies who just simply freeze and then are turned away. And the widows that refuse to cry are dressed in garter and bow tie, be taught to kick their legs up high in this vicious cabaret. At last, the 1998 show, the ballet on the burning stage. The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bright bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains, draw fingerprints, our prints and stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed the nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart and voice of cruel machine. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl who puts good will on shop, is desperate for her father's love. Believes that from beneath the glove is one she needs to hold. Push it out to her morality. She decides that she has more ease in the land of queen as she please. And outside in the cold, the backdrops peel and the sets give way, and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors too are uncertain if the show is through. Sidon looks away the cue with the bows on Marsha smiles. At last, the 1998 show, the talk song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strong by the string.
C'est ainsi que s'achève déjà la première d'Occupons les ondes à CKIA 88,3. Mais je ne vous laisserai pas, bien sûr, sans vous présenter notre merveilleuse équipe. Alors, à la recherche, Michel O'Neill et Charles-Eugène Bergeron, à la mise en onde et au choix musical, Yannick Racine, quoique pour la musique. On aime bien mettre notre grain de sel nous-mêmes aussi, de temps en temps. Simon Michaud-Blais et Benjamin Clich ont été nos chroniqueurs du jour et nous reviendront régulièrement partager leurs connaissances avec nous. Au rêve, à la conception, au leadership, à la douceur, au sang-froid, à la patience, à l'intelligence, bref, à la réalisation, l'inestimable Marie-Hélène Demel. Notre rendez-vous est hebdomadaire. Nous souhaitons donc vivement vous retrouver mercredi prochain à 17h sur CKIA 88,3. Avant de vous laisser, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui était Pascale Milan et qu'elle nous a entretenu de l'inspirateur du mouvement des indignés, M. Stéphane Hessel. Si vous désirez approfondir le sujet, vous trouverez en librairie pour moins de 10$ chacun ces ouvrages intitulés « Indignez-vous et engagez-vous ». Le premier aux éditions Indigènes et le second chez l'Aube. On me précise d'ailleurs que le tout se trouve aussi en format PDF sur le web. La semaine prochaine, c'est plus spécifiquement le système financier qui retiendra notre attention et notre invité sera M. Robert Jasmin, qui fut président d'Attaque Québec. Attaque Québec, c'est l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Notre plus grand espoir est que vous constatiez au fil des semaines à quel point le mouvement Occupons Québec et tous les autres à travers le monde sont encore bien vivants malgré les réactions négatives des autorités et le grand nombre d'occupations physiques des lieux publics qui ont été démantelées par les forces de l'ordre, malheureusement. Nous sommes un mouvement pacifique, mais déterminé à ne plus laisser le 1% nous dominer sans réagir et déterminé aussi à dévoiler à nos concitoyens, vous-même qui nous écoutez, les motifs peu honorables, très souvent, de certaines politiques de nos gouvernements qui semblent parfois bien loin de l'objectif d'assurer notre bien commun. Là-dessus, c'était Occupons les ondes. Je vous laisse en musique en compagnie de Fred Pellerin avec la chanson Pop Citron. Et restez avec nous pour la toute nouvelle programmation de CKIA FM qui se poursuit.
Et n'oubliez pas de nous revenir donc la semaine prochaine, toujours 17 à 18 heures sur Occupons les ondes, sur CKIA 88,3. Merci beaucoup à tous.
De s'en faire à croire. Bloque-toi tant que tu peux, tapasse ton char, ta queue, mets-nous en plein les yeux, qu'on se trouve donc plate quand on se regarde dans le miroir. Ça fera une raison de plus pour qu'on achète ta boîte, pis qu'on se dise asti qu'on l'a l'air. Tu veux venir en aide aux malades, pis que toi-même plus jeune, t'es passé au travers la grosse misère. Raconte-nous l'histoire du gars que ça se raconte même pas, tellement c'est triste à voir. Oh oui mon Dieu, j'ai tellement souffert. Avouez, pousse, 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 et tire, et pousse, pousse, pousse. Plus t'en mets paix, pis plus ça mousse. Sing, 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 ling, ling. Ta gueule se vend comme du pouding. Sous-titrage Société Radio-Canada.